Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ça commence par nous sur Rage. Dans Ça commence par nous, nous faisons notre maximum pour vous donner le plus de solutions concrètes et accessibles pour mettre plus de verre dans votre vie. Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous retrousser les manches pour nous attaquer à un énorme défi. Nettoyer notre planète. Car oui, hein, nous sommes des souillons, nous sommes des cracras qui avons réussi à créer ni plus ni moins qu'un septième continent exclusivement constitué de plastique qui fait à peu près trois fois la France et qui gravite en plein milieu de l'océan Pacifique. Pour vous donner quelques chiffres, depuis 1950, l'homme a fabriqué 8,3 milliards de tonnes de plastique et plus de 200 kilos de déchets plastiques sont rejetés chaque seconde dans les océans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Car si une bonne partie de la réponse, elle réside dans le fait de ne plus remplir nos poubelles, une autre, elle, ben, ça serait d'accélérer le nettoyage de ces décharges à ciel ouvert. Dans l'heure qui vient, nous recevrons deux experts en la matière qui nous aideront à y voir plus clair. On aura Cédric Cousseau de Surfrider Paris et Yael Derry du World Cleanup Day. Sur le plateau avec moi, il y a Hélène Dédény qui nous parlera de Zero Waste et Mélanie de One Art qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et oui, comme je vous le disais aujourd'hui, on parle de comment nettoyer la planète et on reçoit tout de suite Cédric Cousseau de l'ONG Surfrider. Salut Cédric.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien.
Alors, Surfrider, hein, en introduction, j'ai commencé à dire que la situation était absolument terrible, que si on regarde avec attention la situation des déchets, notamment dans l'océan, c'est vraiment la catastrophe. Est-ce que tu pourrais pas en rajouter une petite couche pour être sûr qu'on soit complètement déprimé dès le début de l'émission?
Ah si, je peux déprimer encore plus, c'est-à-dire qu'il y a un continent de plastique dans chacun des océans. Donc il y en a plein.
Ah oui.
En surface, puis il y en a encore plus en dessous. Ce qui est en surface, c'est juste 1% de tous les plastiques que l'on a rejetés dans l'océan. Donc oui, je peux continuer encore tout le reste. Et au fond, ou dans les poissons, parce que c'est les poissons qui les ont ingérés et qui mangent les poissons, chacun d'entre nous. Donc finalement, on finit par manger nos propres déchets, nos propres plastiques. Je m'arrête là?
Non, non, il paraît que les sous-marins qui vont sonder les fonds les plus profonds, dans les failles les plus profondes, découvrent aujourd'hui des résidus de déchets. Hein?
Il y en a partout, parce que quand on parle même aujourd'hui de plastique biodégradable, qui est aujourd'hui un vrai argument marketing de l'industrie du plastique, ça n'existe pas en fait. Physiologiquement, on ne peut pas biodégrader du plastique dans l'élément eau. Donc ce plastique, il va devenir plus petit, certes, mais il sera toujours là, il existera encore des centaines d'années jusqu'à nos petits-petits-fils, ils seront encore là.
Donc les sacs en plastique qu'on nous dit compostables actuellement, ou même, j'ai vu qu'il y avait des couverts maintenant en plastique compostable, tu me dis qu'en fait, c'est pas si compostable que ça?
Non, c'est pas compostable du tout, on a fait le test, nous, à Surfrider, avec un soi-disant sac compostable. Au bout de 2 mois, il était toujours là, alors que la législation, je crois que ça doit s'arrêter. Enfin, il doit être dégradé à 60% à peu près à 70 jours. Non, le sac plastique était bien là. Et surtout que, alors là encore, c'est là qu'il faut faire à chaque fois très attention aux mots. C'est-à-dire que quand on dit compostable, c'est compostable à une dimension industrielle et pas home compostable, donc chez soi, avec ses petits vers de terre, etc. Donc en fait, il faut que ça soit à plus de 70 degrés. Dans des conditions très très précises, donc de manière industrielle, mais pas chez soi, dans son jardin.
Du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est le hockey compost à la maison, c'est vraiment un site qui est à part, où là on peut faire confiance parce que c'est effectivement dans des conditions d'air totalement normales, alors que toi, ce dont tu parles, le biodégradable compostable, c'est vraiment dans des conditions industrielles à plus de 60 degrés et avec des conditions carnées aussi ou de l'huile qu'on ne retrouve pas à la maison, donc d'où l'intérêt de bien connaître les sigles et pour pas faire d'erreur.
On est limite. Mais moi, tu vois, naïvement, je me disais, nous, nos déchets, on les enterre ou on les brûle. Et donc, du coup, tous ces déchets qui sont dans les océans, ils viennent des bateaux qui les rejettent. Comment ça marche?
Alors oui, il y en a, effectivement. Et en plus, la loi les autorise à aller, dans certaines conditions, à broyer leurs déchets et de les mettre directement à l'eau. Donc comme ça, ils sont bien petits, ils peuvent être bien ingérés par les espèces. Mais en fait, non, parce que, pour répondre totalement à ta question, 80% des déchets que l'on retrouve sur les plages et sur les océans viennent du continent. continent. C'est-à-dire que c'est nous, c'est le mégot qu'on a laissé ou jeté ou abandonné à Paris, qui va se retrouver dans le canal et puis après dans la Seine. Et puis, parce qu'il est trop petit pour être géré, pour être traité, eh bien, il va finir dans la Seine, et il va finir dans la Manche, les océans, etc.
Et c'est ce qui explique d'ailleurs la présence de Surfrider à Paris. Pour rappel, Surfrider, c'est une ONG qui a pour mission de protéger les lacs, les rivières, le littoral, les océans, même les vagues. Mais vous êtes aussi dans les grandes villes.
Ouais, il y a beaucoup de... Donc déjà, c'est une ONG qui a été créée aux États-Unis, qui a plus de 25 ans, et qui a tous ses relais partout dans le monde, notamment en Europe, sur le littoral, alors évidemment sur la côte atlantique, beaucoup. Le siège est à Biarritz, d'ailleurs. Mais il y a aussi des antennes sur le territoire, entre guillemets, à Paris, en Indre-et-Loire, parce que justement, la pollution, elle commence par nous, pour reprendre le titre de l'émission. Elle commence vraiment à Paris, où elle commence même... Il y a tout un programme de Surfrider qui commence à la source, c'est-à-dire dans les montagnes. Et là, déjà dans les montagnes, on découvre des polluants, donc des déchets. Donc si l'eau est polluée à la source... Ben, je vous laisse imaginer comment elle arrive à l'estuaire ou directement à l'océan.
Mais pourquoi c'est si important que ça, le milieu marin, de se battre pour la qualité de l'eau, la qualité de la propreté de nos océans? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de mettre toute notre énergie dans la préservation des forêts, la reforestation?
Alors on peut faire les deux déjà.
Ouais.
Et puis l'océan, bah, on y pense beaucoup moins. On dit toujours que c'est la forêt amazonienne qui apporte notre oxygène. Mais en fait, alors oui, en grande partie, parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais en fait, ce sont les océans surtout qui nous apportent beaucoup d'oxygène. On considère qu'une respiration sur deux, là, en ce moment, eh bien, nous est donnée grâce aux océans. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'espèces marines qui vont transformer le carbone en oxygène. Donc ça, c'est quand même magique. Et ce sont des toutes petites espèces. Donc du coup, si on dégrade l'océan, eh bien, on dégrade aussi ces espèces-là qui vont finir par mourir, par ne plus exister. Et puis aussi parce que l'océan, c'est le premier régulateur du climat sur la planète. Donc quand la température augmente, eh bien, jusque-là, l'océan arrive à compenser, mais sauf que ça ne pourra pas durer éternellement. Et donc c'est pour ça que l'océan a double titre, on doit le préserver chaque jour.
Ouais, donc hyper important. Vous, concrètement, quelles sont vos missions chez Surfrider?
Alors, il y en a plusieurs, notamment on fait des collectes de déchets. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ton terme à toi de nettoyage. En fait, nous, on est pas du tout dans ce registre-là, en tout cas dans ce champ lexical-là de nettoyage, parce que le nettoyage, on pourrait le faire tous les jours et ça ne suffirait pas. Et le nettoyage, alors oui, il y a beaucoup d'actions qui permettent de nettoyer et c'est bienvenu parce que ça permet de sensibiliser. Mais alors nous, on parle plutôt de collecte, pour collecter ces déchets dans une optique non pas de nettoyer, parce qu'encore une fois, on pourrait revenir le lendemain, il y aurait tout autant de déchets, mais c'est en fait pour quantifier le nombre de déchets que l'on va retrouver. Donc à Paris, c'est surtout les mégots, les bouteilles plastiques, beaucoup, beaucoup de plastique, des sacs plastiques, pour après, au niveau européen, avec toutes les antennes qui existent en Europe, mais pour chiffrer en fait tous ces déchets, de voir quels sont les plus importants, et puis après, pour justement alerter les législateurs, les marques, les décideurs, pour faire changer les choses. Et c'est pour ça que Surfrider, notamment avec d'autres associations, ont amené les parlementaires à arrêter les sacs plastiques, normalement dans les commerces, même si, voilà, il y a encore des biais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, s'ils sont recyclables, mais concrètement, personne ne recycle son sac plastique, ou s'il y a 60% de biosourcés, c'est-à-dire 60% d'une matière plutôt verte, mais quid des 40% restants, qui sont, entre nous, du pétrole. Donc voilà, donc la législation avance, mais il y a toujours voilà, des biais, des freins. Donc voilà, le combat continue toujours, 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 toujours.
Donc plutôt des missions d'éducation, des missions de plaidoyer. Les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de rejoindre l'association, qui ont envie de vous filer un coup de main, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour vous aider?
Alors déjà, tous nos événements sont sur notre page Facebook. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook, il y a un site internet qui est Surfrider Paris. Et donc... Nous, on a toujours besoin de bénévoles justement pour participer à ces collectes, mais aussi pour intervenir dans les écoles, parce qu'il y a beaucoup d'interventions auprès des écoles, des lycées, des collèges, pour justement aussi transmettre aux plus jeunes et pour que ce soit eux nos meilleurs ambassadeurs, d'adopter les bons éco-gestes et en tout cas de sensibiliser. Nous, on n'est jamais à dire il faut que du jour au lendemain, on n'utilise plus de plastique, parce que nous, on a tous commencé... petits bénévoles et au début on s'est tous demandé mais comment je fais concrètement, je vais au supermarché, il y a du plastique partout, mais c'est tout simplement de commencer par se dire par se rendre compte l'omniprésence du plastique chez nous, en fait. Si on commence à compter combien de fois par jour on touche du plastique, on va se rendre compte que c'est phénoménal. Et voilà, on peut se dire, peut-être je peux commencer par ma bouteille en plastique, la remplacer par une gourde, mon sac plastique, le remplacer par un sac réutilisable, etc. Et petit à petit, on amorce quelque chose et pour justement sensibiliser et in fine, c'est ce qu'on me racontait, préserver les océans.
Génial, super entrée en matière. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser, je suis allé voir le documentaire La Terre vue du cœur d'Hubert Reeves il n'y a pas longtemps, et il y a cette spécialiste américaine dont j'ai oublié le prénom, qui dit que finalement, ce qu'elle préconise aux gens, c'est de faire d'abord attention aux choses, attention à la nature, que cette beauté va les interpeller, l'attention va laisser place à l'intention. Bon, attends, en fait, c'est trop beau, j'ai envie de préserver. Et cette intention va ensuite laisser place à l'action pour que derrière, les gens se mettent vraiment à être acteurs de leur quotidien et donc beaucoup plus éco-responsables dans leurs habitudes. Merci beaucoup, Cédric, pour cette présentation. Donc, comme tu l'as dit, pour en savoir plus sur Surfrider, moi, je vous invite à aller faire un tour sur surfrider.eu. Qui est
voilà,
le site global.
Qui est le site européen.
Voilà.
Et Surfrider Paris pour l'antenne parisienne.
.org. Pour l'antenne parisienne. Et tout de suite, on se fait une première pause musicale.
Bye.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et de retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, positif et concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Et aujourd'hui, on parle de comment nettoyer la planète. On est bien dans Ça commence par nous, on continue à parler de ce sujet où je vous disais il faut vraiment qu'on se retrousse les manches, c'est pour collecter des déchets, c'est pour nettoyer notre belle planète. On accueille tout de suite Yael Derry du World Cleanup Day. Bonjour Yael.
Bonjour.
Alors vous voulez nettoyer la planète en un jour dans plus de 130 pays. Un beau défi.
Un beau défi et totalement faisable. C'est un modèle qui existe déjà depuis une dizaine d'années, qui est né en Estonie. La première collecte nationale a mobilisé 4% de la population et ça s'est déployé dans différents pays. L'Albanie a fait 10% il n'y a pas très longtemps. Voilà, on part du principe que c'est tout à fait possible de mobiliser 3 millions de personnes en France.
On peut mobiliser 4%, 10%, tu disais, en Estonie. C'est des petits pays. Comment on va faire pour mobiliser 5%, c'est votre objectif, hein, si je ne dis pas de bêtises, 5% des populations de ces 130 pays. Est-ce qu'il y a des leviers que vous utilisez? Quel est votre travail pour organiser ce mouvement international?
Alors justement, on est un mouvement. L'objectif, c'est de mettre tous les acteurs qui font déjà ça au quotidien depuis des années, de les mettre ensemble et de les faire agir sous une même date. Et sous pour la journée, le 15 septembre 2018, pour la journée du World Cleanup Day. Et c'est parce que tout le monde pourra se mobiliser sous une même date qu'on pourra, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font déjà ça. Et c'est ce qui est important de les mettre en avant.
C'est l'occasion finalement de rassembler les forces vives pour taper un peu tous le même jour et faire parler de ce mouvement-là.
Voilà, et c'est pas tant le mouvement qui compte que le fait de dire qu'il y a énormément de gens qui se préoccupent de la problématique du déchet et qu'on peut faire changer les choses. Et si on montre qu'on est nombreux, alors on pourra agir, mettre tout le monde autour de la table. Il y a la date du 15 septembre, mais en novembre, on prévoit de faire un grand congrès pour mettre tous les acteurs, les entreprises, les associations, les bénévoles, le gouvernement aussi, évidemment, tous autour d'une même table pour voir comment on peut changer les choses. Parce que ce qui est important, c'est oui, de nettoyer, la planète est sale, c'est pas un clean-up de plus, c'est tous les clean-up en même temps, mais surtout, changeons les choses derrière.
Comme le disait Cédric tout à l'heure, effectivement, en général, on a un peu cette impression qu'un jour on nettoie et le lendemain, c'est presque à nouveau aussi sale. Est-ce que... Forcément, je caricature un peu, mais est-ce que, au-delà de ça, vous avez eu des retours de la part des derniers participants qui ont modifié leur attitude en se rendant compte, en fait, à quel point la nature était sale et qui se sont dit « Non, en fait, je ne peux pas continuer comme ça ».
Alors, on a commencé notre campagne sur ce qu'on appelle le « trash blindness », c'est-à-dire se rendre compte des déchets. On vit au milieu des déchets, on ne les voit même plus. Quand on va courir au parc, mettons au bois de Vincennes, on ne les voit plus les déchets parce qu'on a l'habitude. Et en fait, en fouillant un petit peu derrière des buissons ou juste en regardant, on se rend compte qu'il y en a beaucoup.
Ouais.
Et le fait de ramasser, d'aller à une opération de collecte, permet aussi de se rendre compte. Et justement, on part du principe que c'est par une mobilisation massive qu'on pourra générer une prise de conscience et un changement des comportements. Une personne qui va aller ramasser les déchets pendant une heure ou toute la journée ne jettera peut-être plus son mégot par terre, ou peut-être une première fois, mais pas la deuxième, parce qu'il y aura eu ce déclic. Et justement, c'est un changement des comportements par l'action.
Justement, le mégot, il me semble que c'est 500 litres d'eau pour un seul mégot. C'est incroyable. Est-ce que vous avez une idée de quelques chiffres du nombre de milliers, de millions de tonnes? Non, pas d'idée de tout ce que vous êtes capable de collecter si on était 5% de la planète à ramasser des déchets?
Alors, il y a beaucoup de chiffres et c'est pas forcément évident de savoir lesquels sont réellement bons. Ce qui est important aussi, c'est que si on ramasse tous sous une même journée, on pourra comptabiliser sur le territoire français combien de plastiques ont été ramassés, combien de mégots ont été ramassés, combien de pailles ont été ramassées, de canettes. Et à partir de là, il y aura vraiment un chiffre précis, à un moment donné, dont les autres associations qui agissent, dont par exemple Surfrider, pourront aussi, elles pourront utiliser ce chiffre-là pour faire valoir leurs actions. Et c'est dans ce sens-là aussi que nous organisons notre mouvement, c'est aider les autres associations aussi, leur donner du poids. D'abord, elles peuvent venir organiser une opération le 15 septembre, avec leur t-shirt, avec, voilà, très bien. Et en plus, elles auront ces chiffres-là pour agir, puisqu'elles sont sur des actions de sensibilisation, de réduction des déchets, de changement de comportement, et on les laisse parler justement à ce niveau-là.
Et donc, il y a besoin d'être au plus près de la réalité et forcément de collecter tous ces chiffres, ça a une vraie valeur.
Exactement. Et ça, c'est un point qui est central dans notre opération. On invite tout le monde à participer le 15 septembre. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse comptabiliser, un, combien de personnes a participé, et deux, quelle quantité et quel type de déchets a été ramassé. Évidemment, on met en place des choses comme le tri, le recyclage, la valorisation du déchet. Ça, c'était une évidence. Mais pouvoir avoir ces chiffres à la fin et que les personnes, ça peut être une association peut organiser son événement de nettoyage, de collecte, mais aussi des individus. Ça peut être un groupe d'amis qui vont juste faire un footing, qui vont faire une randonnée et qui ramassent en même temps. Et toutes ces informations-là seront utiles pour nous.
Ouais, j'ose même pas imaginer la quantité de travail qu'il y a derrière une journée où on veut mobiliser 5% de la population. Moi, j'allais te poser la question, justement. Les personnes qui nous écoutent et qui disent, mais attends, forcément, faire partie de ces 5% de la population de plus de 130 pays qui se mobiliseront le jour J, tu dis bien le 15 septembre 2018, et qui se disent, mais comment je fais? Qu'est-ce que tu leur réponds? Comment ils peuvent vous aider?
Alors, il y a, on recherche évidemment des bénévoles pour nous aider à mettre en place tout ça jusqu'au 15 septembre. Et après, ce qui est important, c'est justement de participer le 15. Et là, c'est tout le monde. Comment faire? Donc, repérer un site, un lieu à nettoyer. Ça peut être, comme je disais, une randonnée. Ça peut être sur le trajet entre chez soi et l'école de ses enfants, autour d'un stade, n'importe. A priori, il y a quand même des lieux à nettoyer un peu partout, donc c'est facile. Donc, repérer un lieu, l'inscrire sur notre site, mobiliser des gens pour participer, les amis, les collègues, la famille, les voisins, et le jour J, faire cette opération de nettoyage et ensuite nous faire les remonter sur les chiffres de participation et de collecte. En soi, c'est très simple. Ce qui est important aussi, c'est que finalement, cette opération, c'est un peu comme une fête des voisins gigantesque. Il faut que ce soit fun et ramasser. C'est important, mais il faut aussi que les gens puissent participer, échanger, créer du lien justement avec une opération peut-être de sensibilisation à la fin, ou ne serait-ce qu'un pique-nique, un apéro, si possible zéro déchet, tant qu'à faire. Mais qu'il y ait du lien, qu'il y ait du dialogue entre les gens, ça participe aussi à l'effet et à la prise de conscience et à la volonté d'engagement.
Ma dernière question, justement, tu parlais des associations que vous allez essayer de rassembler sous cette même bannière. Est-ce que ça peut aussi passer par d'autres groupements? Je pensais notamment aux écoles. Est-ce qu'une maîtresse peut dire, bon, bah, allez, avec les enfants, on va aller ramasser des déchets? Est-ce que ça peut aussi être dans le milieu de l'entreprise où des gens disent, dans le cadre de notre politique RSE, nous, on a décidé de d'impliquer nos 100, 200, parfois des milliers de collaborateurs sur ces thématiques.
Alors justement, tout le monde peut participer. Autant des particuliers, des bénévoles, des associations sportives, associations dans l'environnement, associations de les joueurs de belote, peu importe. Tout le monde peut participer, mais aussi effectivement les entreprises qui peuvent organiser leur propre opération de collecte, peut-être autour de leur site ou dans où elles veulent, en faisant aussi venir les familles des collaborateurs. Tout ça, ça participe justement à cette prise de conscience. Et il se trouve qu'il y a deux jours, on a mis en ligne un kit, parce qu'on invite les gens à faire beaucoup de choses, mais on donne aussi beaucoup d'outils qui sont disponibles sur leur site. Et donc, il y a deux jours, on a mis en ligne un kit pour les écoles, justement, comment mobiliser son école, donc à destination des enseignants, des responsables d'établissement, avec différents axes, notamment comment faire pour organiser une opération de nettoyage, différents axes pédagogiques qui peuvent être utilisés. On donne évidemment des exemples, chacun peut faire comme il veut, mais même une maternelle, si c'est difficile de sortir, et bien ne serait-ce que faire nettoyer les enfants au sein même de l'établissement, c'est déjà leur donner une éducation citoyenne. Et ça passe déjà par là. Ce qu'on avait à l'époque, l'éducation civique à l'école, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, c'est important aussi, et c'est aussi ça, il y a plein de valeurs à faire passer à travers cette opération. Donc oui, bien sûr, les écoles sont vivement invitées à participer.
Et tout ça, on le trouve sur le site
worldcleanupday.fr.
World Clean, attention pour les non-anglophones, ça s'écrit CLEANUPDAY.fr. Merci Yael pour cette présentation. On redonnera toutes les informations sur notre groupe Facebook. Ça commence par nous. Et tout de suite, on se refait une pause musicale.
Thank you. commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et on est toujours dans l'émission Ça commence par nous. Tout de suite, c'est le moment tant attendu, le moment du zéro déchet. Je laisse le micro à Hélène, la fondatrice d'Edeni, le zéro waste positif. Salut Hélène.
Salut Julien.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler d'Afroz Chat. Alors, vous ne le connaissez sûrement pas comme ça de nom. Et pourtant, vous en avez peut-être entendu parler si je vous dis la plage la plus polluée du monde qui a été nettoyée en 85 semaines.
En Inde, c'est en
exactement.
Inde.
Exactement. Ah, oui. En Inde, du coup, au nord de l'Inde, c'est Afroz Chat, justement, que j'ai pu contacter, qui un jour se promenait sur cette plage extrêmement polluée, comme on a ces images qui circulent de temps en temps où vraiment il y a de la place pour absolument rien à part les déchets. Et il en a vraiment eu marre. Et effectivement, si lui tout seul s'était mis à prendre les plastiques, bah, il aurait pu se décourager totalement. Mais si, bah, c'est pas grave, je vais faire ma part, ça commence par moi. Et je vais y aller, et puis les gens vont commencer à peut-être suivre un petit peu mon mouvement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Pourtant, il n'a pas monté d'association ou de choses en disant « Allez, on va tous ensemble lutter contre la pollution ». Non, non, c'est vraiment juste, c'est devenu un peu naturel.
Par l'exemple.
Exactement. Exactement. Ah ouais. Montré par l'exemple. Bon, après, évidemment, il y a eu des comités de bénévoles qui se sont organisés au fur et à mesure où on a vu qu'il y avait des petites parcelles qui commençaient à se dégager. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, au bout de 85 semaines, l'ONU l'a qualifié comme l'une des plus grandes opérations de nettoyage de plage au monde, avec plus de 5000 tonnes de déchets éliminés. Alors, on parlait de chiffres tout à l'heure. Là, c'est assez impressionnant. 5000 tonnes de déchets éliminés pour justement révéler les sables dorés qui se cachaient dessous. Et c'est les quelques 1500 bénévoles qui se sont mobilisés et surtout suivis tout au fur et à mesure de ces 85 semaines, et ben ont eu le plaisir, au bout de ça, de revoir des tortues qui revenaient s'installer et pondre sur cette plage qui avait été totalement laissée au plastique pendant des dizaines d'années.
Ouais, c'était un cauchemar, hein. Les images que j'ai vues, c'est vraiment incroyable, une décharge à ciel ouvert.
Exactement. Et en fait, le plaisir qu'a eu Afroz Chat à vraiment sacrifier quelque part ses soirées et ses week-ends à faire ça, et bah, c'est quelque chose que je vous invite à tester, justement, sur ces opérations de nettoyage. Je dis, bon, après tout, c'est pas moi qui ai un peu qui ai laissé ces déchets, qui ai tout dégueulassé sur mon chemin pour aller au travail, par exemple. Mais si vous le faites, testez. À Edeni, on a testé, du coup, le plogging, et on en est déjà à notre quatrième édition. Et là, maintenant, il y a Run Eco Team aussi qui nous rejoint. Et on sera avec Surfrider aussi le 8 juin. En fait, vous vous apercevez que quand vous faites ça, vous recevez tellement d'encouragement, de gens qui disent « oui, bravo, c'est génial », sur le chemin. Et puis, on en a déjà parlé dans l'émission sur le sport écolo, que je vous invite à réécouter. Mais c'est vrai qu'il y a un véritable plaisir, au-delà de la performance sportive ou juste du moment passé ensemble, où voilà, c'est une activité bénévole qu'on va faire pour nettoyer un coin de notre rue, de notre ville, de notre trajet, de notre entreprise, de notre chemin de randonnée. Et bah, c'est vraiment le plaisir de dire « finalement, j'ai participé à quelque chose un peu qui me dépasse ». Et cette prise de conscience qui s'ensuit. Donc moi, forcément, Zero Waste et Denis, je lui ai demandé à Charo si depuis il était devenu Zero Waste, et il m'a dit qu'effectivement c'était un concept auquel il était totalement, mais alors totalement étranger, même en commençant à nettoyer, en fait. Sauf que, bah, au fur et à mesure, soit on écoute des émissions comme celle-là, soit on rencontre quelqu'un qui est déjà dans une démarche zéro waste depuis longtemps, soit on se documente, mais surtout, on l'expérimente. C'est pas quelque chose où on peut lire et se dire « Ah oui, c'est génial de ne plus consommer de plastique » sans l'incarner soi-même, sans le revendiquer. Et donc, au fur et à mesure, oui, effectivement, on s'aperçoit qu'on peut vivre vraiment sans plastique du tout. On peut avoir découvert en inox, on peut ne plus utiliser de paille en plastique. Et tout ça, en fait, ça se fait assez naturellement. Le nettoyage commence comme une première action de sensibilisation qui mène irrémédiablement, je pense, qu'à la fin de ce World Cleanup Day, il y aura forcément, et je l'espère, hein, mais dans tous les cas, ce sera normal, des prises de conscience qu'effectivement, le déchet qu'on va même pas forcément mettre dans la nature à la fin de cet apéro qui suivra le grand nettoyage. Finalement, statistiquement, il y a 30% qui termineront dans tous les cas de nos déchets plastiques à l'océan. qu'on les ait mis à la poubelle ou pas.
Tu dis qu'ils s'échappent des camions, ils s'échappent des poubelles, ou finalement...
Exactement, le vent, un rat qui va l'emporter, un chien errant, ou ces fameux mégots où on se dit non, mais je les ai mis dans, la petite, dans le petit caniveau, c'est pas franchement jeté. Mais en fait, si, parce que in fine, avec le vent, les oiseaux, les choses qui s'échappent, même dans des décharges à ciel ouvert, ça terminera. 30% de nos emballages plastiques termineront statistiquement à l'océan et rejoindront les 634 000 kilos de déchets globaux qui arrivent dans les océans chaque seconde. Donc, pour résumer, le zéro waste, c'est aussi, ça fait partie du nettoyage, mais c'est surtout en amont et en aval qu'il faut y penser.
Et justement, hein, Yael, ça va complètement dans le sens de ce qu'on se disait tout à l'heure. Merci Hélène pour cette partie zéro déchet. Tu vois, je ne connaissais pas le nom de cette personne. Je ne savais pas qu'il avait été juste exemplaire dans sa pratique et que les autres l'avaient suivi. Donc, c'est quand même un exemple assez inspirant.
Ouais.
Moi, ce que je voulais savoir, c'est finalement vous qui avez l'expérience de ces collectes, de ces ramassages, quels sont les déchets qu'on voit le plus apparaître? On a beaucoup parlé du mégot, mais Cédric, est-ce que tu as une autre idée de déchets qu'on voit fréquemment?
Alors du coup, le premier, c'est le mégot, et qu'on retrouve mais en masse, littéralement. On a fait une collecte le 25 mars dernier. En une heure, on était une centaine de bénévoles, on en a récolté près de 25 000. Donc c'est énorme, donc c'est le premier déchet que l'on retrouve même partout en Europe, parce que souvent on le cache dans le sable et puis on se dit il disparaît, sauf qu'il disparaîtra pas tout de suite en tout cas, et puis en tout cas il va diluer tous ces agents toxiques. Après c'est le plastique, mais d'ailleurs le mégot est du plastique, parce qu'il y a aussi du plastique dans le mégot. C'est les bouteilles, c'est le sac plastique, c'est le bouchon de plastique. C'est 9 à 8 déchets sur 10 qu'on retrouve le plus sur les plages, et notamment à Paris, c'est du plastique.
Les briquets BIC, justement, ils ont fait dans cette fameuse plage de Vissana, je crois, au nord de l'Inde, où ils avaient retrouvé énormément dans les plastiques identifiables, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en petits morceaux. Mais il y a des briquets BIC, il y a des brosses à dents qui restent, alors elles pour le coup assez intactes, c'est assez hallucinant. Il y a des tongs, il y a des pailles en plastique, il y a des couverts, il y a... Vas-y, tu allais...
Ouais, et même sans couverts. Aller jusqu'en Inde, enfin, lors de cette dernière collecte, justement, on a trouvé une trottinette qui flottait sur le canal, on a trouvé un casque de moto, on a trouvé un four à micro-ondes, la dernière fois on avait trouvé une bonbonne de gaz. Donc vraiment, il y a de tout, tout ce qu'on peut avoir acheté, finalement, peut se retrouver sur le trottoir et puis tomber dans le canal ou dans la Seine. Donc l'exotisme, il est au coin de la rue aussi, et un exotisme assez tragique.
Et est-ce qu'il y en a qui sont plus dangereux que d'autres de déchets? Je pense notamment à cette vidéo terrible qui m'avait serré le cœur, de la tortue dont on ressort du nez une paille. Je vois aussi cette image très bien ah mince, ça y est, j'ai oublié le nom, avec le coton-tige. Hein? Non, il y avait un hippocampe,
ouais,
avec le coton-tige enroulé autour de la queue. Est-ce qu'il y a des déchets où il faut faire particulièrement attention?
Alors j'ai envie de dire vraiment tous, parce que chacun va agir de manière très différente. Alors par exemple le coton-tige, c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'on retrouve autant de coton-tige sur les plages? Parce que tout simplement les gens, encore beaucoup, les jettent dans les toilettes. Donc il y a cette pollution qui est visible, et qui parfois d'ailleurs, Yael le disait, on ne le voit plus. Mais il y a aussi toute cette pollution invisible, je pense notamment aux microbilles de plastique qui sont dans les cosmétiques, mais aussi dans les détergents, dans les vêtements. La première fois qu'on va laver un vêtement synthétique, 80% des fibres plastiques vont se retrouver dans le circuit de l'eau. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et pourtant, tout à l'heure, quand on parlait du continent de plastique, c'est ces microbilles de plastique-là qui s'agrègent et qui finissent avec les courants à former un continent, et qui en plus est une sorte d'aimant incroyable pour absorber d'autres polluants, donc ils vont se déplacer comme ça partout sur la planète, et puis en plus ils vont être une sorte de radeau pour des espèces invasives, donc on va retrouver à un lieu B une espèce qui était partie d'un lieu A, alors qui va complètement dévaster l'écosystème. Donc il y a cette pollution qui en engendre d'autres, visibles, invisibles, donc littéralement chaque geste compte, et donc il faut faire attention vraiment au quotidien.
Donc la pub ne nous mentait pas, le plastique c'est vraiment fantastique à partir du moment où on a décidé de ruiner définitivement notre belle planète. C'est magnifique ce qu'on fait avec du marketing, n'est-il pas? Je vous remercie pour ce petit passage, on se refait un nouveau break musical et on revient juste après avec Mélanie qui nous partagera le bon plan de One Art.
J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village. drapeaux aux mille couleurs. La caissière vous noie au passage, prenez-en c'est de bon cœur. De bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage. La musique est partout la même, cette terre est juste de passage. Pour flatter votre égo de passage, regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
C'est la rengaine du quotidien, celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent, ça vous enterre des paniers, c'est là au moins pour 100 ans.
100 ans, 100 ans, 100 ans.
Un siècle d'air de plastique, ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité. La mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré, drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
Quelle fleur satanique cette terre a vu enfanter. Quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais, main de l'homme sur le monde redessine les paysages. La musique est partout immonde, cette terre est juste de passage. Pour flatter votre égo de passage.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et de retour dans l'émission, ça commence par nous. Je laisse le micro à Mélanie du média positif One Art. Salut Mélanie.
Salut Julien, bonjour tout le monde. Donc moi aujourd'hui, mon bon plan, c'est un immense nettoyage participatif. Donc si vous habitez Paris ou que vous êtes de passage à Paris le week-end du 9 juin, eh bien réservez vite cette date parce que la ville de Paris organise un immense nettoyage participatif.
Participatif.
Exactement Julien, participatif. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun joue le jeu, que tout le monde se mobilise dans son quartier. Et la ville de Paris est à l'origine de ce projet, mais c'est vraiment tous les citoyens parisiens, parisiennes qui se sont un peu rassemblés pour créer des événements autour d'eux et de mobiliser un maximum de gens, que ce soit des amis, des copains. Donc même si vous êtes de passage à Paris, l'idée, c'est, l'idée de la ville de Paris en créant cet événement, c'était vraiment de sensibiliser les gens au respect de l'espace public, à la gestion des déchets à Paris. Et donc, c'est vraiment les citoyens qui donnent tout son sens à cet événement, en fait.
Ouais, d'autant que Paris, on n'est pas réputé pour être la ville la plus propre du monde. Hein.
Non, non.
Et comment on fait pour participer à ce grand nettoyage?
Vous avez deux possibilités. Soit vous greffez un événement qui existe déjà, qui est déjà référencé sur le site de la ville de Paris, ou alors vous motivez, vous organisez un événement avec votre entourage, vos amis, vos voisins, et ensuite la ville de Paris s'organise pour vous filer tout le matériel nécessaire. Donc des chasubles, des sacs, des gants, pour que vous puissiez réussir votre opération.
Nettoyage.
Voilà. Exactement.
Est-ce qu'on trie les déchets? Est-ce que tu sais un peu comment ça s'organise tout ça?
Alors, je ne pourrai pas répondre à cette question, donc je vous invite à aller sur le site de la ville de Paris pour vous renseigner.
Une question un peu piège, ouais, mais c'est Yael qui m'a fait penser à ça, puisque le World Cleanup Day, ils sont hyper organisés, ils recyclent, et du coup, je me suis dit, tiens, la ville de Paris a sans doute s'inspirer de cette bonne pratique. Et d'autres infos peut-être.
Par contre, je peux peut-être te dire ce qu'on y fait ce jour-là. Donc, le 9 juin, comme je vous le disais, il y aura plus d'une cinquantaine de mobilisations partout à Paris. Je suis allée jeter un coup d'œil sur le site de la ville de Paris et vous avez plusieurs événements dans plusieurs arrondissements, donc entre le nettoyage des berges de la Seine, des couloirs de métro, des rues, des squares. La motivation est là, ça c'est sûr. Mais ensuite, il y a certains citoyens qui ne se sont pas arrêtés là et ils n'ont pas manqué de bonnes idées, puisque certains proposent de joindre l'utile à l'agréable. Le 13e arrondissement de Paris, par exemple, organise un ramassage de déchets tout en découvrant les œuvres de street art qui ornent les rues du 13e arrondissement. Donc je trouve que c'est plutôt sympa de faire un nettoyage des rues tout en découvrant un peu les œuvres d'art qui nous entourent.
Génial.
Ensuite, vous avez les habitants du 5e arrondissement qui, eux, ont décidé également de joindre l'agréable à l'utile à travers leur parcours Run Eco Team. Hélène en parlait. Il s'agit de courir 10 km ou même de marcher 5 km tout en ramassant ces déchets.
Oui, parce que sinon on peut les ramasser et les mâcher et ça fait ramâcher, mais c'est pas terrible.
Ouais, ouais, non, c'est pas terrible. Et vous avez aussi l'association Balai Paille qui lutte contre la pollution plastique, qui organise un immense plogging. Donc je sais pas si tout le monde est familier avec ce terme.
Hélène, là, on avait parlé dans l'émission sur le sport pour changer le monde, mais ça vaut le coup, je pense, de réintroduire.
Peut-être pour rappeler, plogging, c'est un néologisme d'origine suédoise et c'est une contraction du mot plocka up qui veut dire ramasser en suédois avec le mot jogging, donc qui fait plogging. Donc vous courez, vous ramassez vos déchets en même temps. Et donc ça sera le 9 juin. L'association Balai Paille vous donne rendez-vous le 9 juin sur la place de Stalingrad à Paris. Donc vous ferez les abords du canal et ensuite vous remonterez jusqu'au parc de la Villette. Et donc la convivialité sera aussi au rendez-vous, puisque vous avez plusieurs citoyens qui ont organisé des événements après le ramassage de déchets, par exemple des verres de l'amitié, des repas un peu conviviaux entre voisins, entre amis. Enfin, l'idée c'est vraiment de rendre cette expérience fun, comme disaient un peu nos invités. L'idée c'est pas que ça soit quelque chose d'embêtant, c'est vraiment de rendre la chose très agréable
et de rencontrer des gens.
Exactement.
En faisant une bonne action.
Donc ça, il y a aussi un lien social qui se crée et ça c'est hyper intéressant.
On redistribuera les bonnes informations en partageant en particulier le lien fait sur le groupe Facebook de Ça commence par nous.
Exactement. Donc juste pour finir, c'est rappeler la date, c'est le 9 juin à Paris, dans plusieurs arrondissements. Les horaires changent en fonction des événements auxquels vous souhaitez participer, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site de la ville de Paris. Et donc voilà, pour finir, pourquoi nous, on ne deviendrait pas des ambassadeurs de la propreté ?
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et allez, dernière ligne droite de cette émission, ça commence par nous. Aujourd'hui, vous avez vu, on parle de comment nettoyer la planète, comment collecter tout ce plastique qui envahit notre belle nature. Et moi, pour lancer ce débrief, je me demandais, est-ce que le fait de travailler sur ces thématiques, ça fait qu'au bout d'un moment, on en vient à complètement changer son quotidien et devenir presque à contrôler, à peser chacun de ces déchets. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre expérience, Yael? Toi, ça t'a complètement chamboulé?
Alors, de la même manière que ramasser permet de générer une prise de conscience, travailler dans pour ce type de sujet en génère une, de toute façon. Et oui, je me suis mise à... Autant j'ai toujours fait attention à ne pas jeter, en tout cas, dans la nature, autant je me suis mise à davantage contrôler mes gestes dans les achats. Dans le quotidien, je me suis mise à ne serait-ce déjà ramasser de temps en temps un déchet quand je vois qu'il y en a par terre et qu'il y a une poubelle pas loin. Aujourd'hui, ça m'horripile. Et ça va aussi plus loin, car cette prise de conscience va aussi à travers mes enfants. Puisqu'aujourd'hui, mon fils de 5 ans me faisait encore la remarque ce week-end. Il a tout juste 5 ans, il parle pas forcément très bien, mais il a vu un monsieur jeter un mégot et il a fait « Maman, c'est pas bien !» Et le monsieur a entendu, il s'est retourné, il s'est senti gêné, il n'a pas ramassé son mégot. Mais je suis sûre que la prochaine fois, il ne le jettera pas. Et ça va aussi par là.
Et Cédric, toi ?
Moi, je dirais que ça crée surtout des conflits de couple. Quand on est soi-même investi, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne voit plus que ça. Et que parfois, l'autre personne ne comprend pas forcément pourquoi on n'a pas envie d'aller dans un supermarché parce qu'il y a trop de plastique et il n'y a que celle ouverte le dimanche et que du coup, ça devient un conflit.
Moi, je dirais que c'est ça surtout mon problème.
Mais du coup, ça veut dire que toi, mine de rien, t'as quand même grandement changé tes habitudes. T'es devenu un pro du zéro déchet. Tu serais capable de mettre la misère à Hélène, la reine du zéro déchet.
Alors là, je dis, il y a conteste.
Ah, là, 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 là.
Non, le but, c'est... Alors, moi, je suis pas à zéro déchet. J'y aspire, mais c'est vrai que, voilà, moi, j'ai commencé... Alors, pareil, le zéro déchet, j'étais pas du tout dedans. J'étais plus sur, déjà, la pollution. Mais effectivement, quand on a commencé un combat... Bah, l'autre vient tout de suite et ça devient évident.
Tout est lié. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, c'est très important. Et ce que tu disais justement sur les conflits de couple, ça, c'est. Non, mais c'est pas du tout à ignorer, en fait. Il faut vraiment faire attention et bien réaliser que les zones du cerveau qui sont vraiment activées quand on se sent isolé, quand on se sent exclu, bah, c'est les mêmes que quand on est battu. Et du coup, c'est très important de voir que l'autre doit pas se sentir isolé dans le couple, qu'on est en train de faire un truc, moi je, et l'autre, du coup, se sent un peu, bah, c'est pas mon combat, je l'ai pas choisi parce que voilà, mon expérience, ma vie m'a pas mené à cette réflexion à ce moment-là en même temps que toi. Du coup, c'est important de respecter aussi cette différence de vitesse qu'il peut y avoir dans l'acquisition de cette prise de conscience et de sa transformation en action, surtout parce que parfois il y a la prise de conscience qui peut se faire, on le voit avec la sensibilisation, mais qui se matérialise pas forcément par de l'action. Et alors là, bah, c'est comme on en parlait avant sur la chronique Zero Waste, bah, c'est vraiment juste de montrer par l'exemple qu'on peut le faire. Si nous, on est capable d'avoir eu cette réflexion, d'avoir eu cette chance même, parce qu'après, c'est un peu comme une épiphanie, c'est quelque chose qu'on a découvert et qui nous apporte vraiment beaucoup de bonheur, et ben on le met en pratique. Et plus on en parle, moi, je vous encourage, dès que vous avez comme ça une conviction qui vous paraît importante, sans pour autant faire du prosélytisme, parlez-en énormément autour de vous. Comme ça, ça vous met face à vos propres éventuelles incohérences, ça vous fait un petit challenge avec vous-même. Vous en avez tellement parlé que du coup, les autres vont bien regarder si vous jetez pas votre mégot la prochaine fois. Donc c'est plutôt positif, ça vous met un challenge. Et puis ensuite, bah, ça apporte des pistes de réflexion aussi pour ceux qui vous entourent et qui vous regardent.
Le nez dans ce sujet en permanence, moi je me pose un peu la question de savoir si c'est vraiment du côté du citoyen que ça doit venir, ces actions. Je pense notamment aux gouvernements qui peuvent en une signature éradiquer des pans entiers de notre industrie plastique. Bon, alors après, en France, ça va doucement et on se rappelle qu'il a fallu presque des années pour arrêter les sacs plastiques qui d'ailleurs continuent à se retrouver dans certaines épiceries et sur les marchés. Est-ce que vous pensez pas quand même qu'au niveau législatif, au niveau européen, j'ai récemment vu bouger l'Europe sur ces questions. Est-ce que tu ne pensais pas qu'il y a du boulot, Cédric? Tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet?
Oui, il y a du boulot, mais c'est en fait le travail de tout le monde. C'est le travail du citoyen, c'est aussi des industriels et ne nous cachons pas, effectivement, aujourd'hui, les marques, ceux qui produisent des emballages, c'est aussi un argument marketing aujourd'hui de devenir plus vert, etc. Tant mieux, mais il faut vraiment que ça s'accompagne quelque chose derrière de vraiment sérieux. Et puis des législateurs, on doit reconnaître que ça avance. Il y a la loi biodiversité du précédent quinquennat qui a fait beaucoup apporter des choses, notamment sur le sac plastique, notamment sur les couverts, notamment sur tout un tas de plastiques à usage unique. Et tu en parlais, la Commission européenne qui a fait tout un tas de propositions pour justement aussi aller en parallèle et interdire ces objets plastiques à usage unique. Mais alors là, s'engage maintenant un autre combat. C'est-à-dire que maintenant que Surfrider a fait du travail de lobbying, notamment auprès de la Commission européenne, pour arriver à cette feuille de route. Mais cette feuille de route, c'est juste le point de départ. On en a beaucoup parlé dans les médias, comme si c'était un point d'arrivée. Mais non, tout commence maintenant. Parce qu'il va falloir désormais convaincre à nouveau et encore les parlementaires, les eurodéputés, les ministres, les États membres. Et puis, après, il faudra le retranscrire en droit français. Donc, les parlementaires français, encore une fois. Et tout l'enjeu, en fait, c'est, ça paraît anodin et ça paraît rien, mais ce terme de plastique à usage unique, ça va être le combat, parce que qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on met les pailles? Est-ce qu'on met le gobelet qui tombe de la fontaine? Mais certains ne veulent pas qu'on mette le gobelet qui tombe du distributeur à café. Donc vous voyez, il y a plein de subtilités qu'il va falloir éclaircir, et voilà, c'est tout un combat, voilà, qui va revenir encore auprès des associations, et les plasturgistes en face sont très forts pour justement freiner et contrecarrer tout un tas d'initiatives.
Moi, j'avais une question justement pour vous, Yaël et Cédric. Qu'est-ce que vous diriez justement aux auditeurs qui nous écoutent et qui pensent que c'est vraiment infaisable? que c'est impossible justement de bannir le plastique de notre quotidien, qu'il n'y a vraiment pas d'alternative. Enfin, Cédric en parlait tout à l'heure, on peut toujours remplacer la bouteille en plastique par la gourde, le sac en plastique par les tote bags, ou Hélène en parlait aussi, les pailles. Il y a toujours des alternatives, mais c'est vrai que comme tu le disais à juste titre, dans les supermarchés, c'est un peu compliqué de bannir complètement les emballages plastiques. Des fois, c'est indépendant de notre volonté, mais qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui se disent « bah ouais, mais j'y peux rien en fait, je suis obligée d'acheter ce produit parce qu'il est emballé alors que je ne le veux pas forcément ». Comment est-ce qu'il peut faire
Dis-nous que c'est possible, Yael, s'il te plaît. Dis-le.
C'est possible.
Oui, elle l'a dit.
Elle l'a dit, mais du coup...
Et concrètement, quel conseil vous donnez aux gens pour s'y mettre aussi et participer à cette lutte?
Concrètement, chacun peut agir à son niveau. Ça va déjà faire attention à ce qu'on achète. Entre un paquet de gâteaux où il y a un seul emballage et puis chaque gâteau emballé dans un second emballage et parfois dans un troisième. Voilà, on peut déjà choisir ces produits. Ensuite, il y a plein de choses qui sont faisables. Par exemple, au niveau des législations et autres, il y a aussi le Maroc qui a réussi il y a 2 ans à bannir complètement tous les sacs plastiques, à les remplacer par des sacs en tissu biodégradables. Des pays le font, pourquoi nous ne pourrions pas le faire? Chaque citoyen peut agir. Une petite action, plusieurs, aller dans un supermarché et venir avec ses bocaux, c'est déjà montrer que ça a du sens, que ça concerne les consommateurs et tout le monde pourra ensuite agir à ce niveau-là.
Ça me semble être une excellente réponse. Nous sommes loin, nous, Français, d'être les leaders dans ce domaine. Regardons les autres pays, puisque les autres pays bougent et montrent que c'est possible. Nous pouvons nous inspirer d'eux. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Malheureusement, l'émission, elle touche à sa fin. Pour rappel, nous avons reçu dans cette émission Cédric Cousseau de Surfrider Paris et Yael Derry du World Cleanup Day. Merci à vous deux pour vos interventions de qualité.
Merci. Merci.
Et bien sûr, on a eu également la fine équipe, Mélanie de Wannard qui nous a partagé tout à l'heure son bon plan, et Hélène Dédény pour son focus zéro déchet. Je tiens également à remercier Raphaël et Fabrice pour Rage.
Ça commence par nous.
Et voilà, ça commence par nous, c'est terminé. Prêtez attention au groupe Facebook, on partagera cette excellente vidéo qui montrait les 30 objets les plus faciles à éradiquer de son quotidien pour vraiment dire définitivement adieu aux produits en plastique. C'était fait par Edeni, je me rappelle, il y a quelques mois qu'elle était passée cette vidéo, elle est beaucoup fait parler d'elle. Bien entendu, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, vous pouvez retrouver le podcast sur le groupe Facebook Ça commence par nous, mais aussi sur rage.fr et sur iTunes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui change le monde. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à samedi prochain, 13h. Salut !